Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité.
En 1997, Barry Sonnenfeld nous offrait un film drôle, comique, avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Alors si le film fut un succès, donna de suite, on peut se demander si derrière cette comédie, on ne cache pas une réalité décrite par de nombreuses personnes qui, de loin ou de près, y furent confrontées. Alors si certains ricanent et crient au mytho, il est temps pour moi de réouvrir ce dossier avec quelqu'un qui a eu affaire à ces hommes en noir, à ces men in black, Richard Glenn. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir Bob.
Comment ça va?
Ben très bien, un beau soleil chaud ici au Québec, alors que je sais vous êtes encore sous la pluie.
Ah oui, oui, ben nous, nous c'est maintenant c'est un état permanent, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est, on s'y est habitué. De temps en temps, on a un rayon du soleil, mais bon, ça c'est paranormal quand il fait beau chez nous hein, maintenant. Donc, alors, je rappelle que l'ésotériste du Nouveau Monde, c'est vous, animateur, concepteur, producteur de l'émission Ésotérisme Expérimental. Merci d'ailleurs, je sais que sur votre site, vous parlez de l'émission et ça me fait bien plaisir. Alors, vous avez animé une émission de télé au Québec entre 1976 et 97, puis vous diffusez maintenant sur Internet. Vous êtes diplômé en psychologie et on va ce soir, Richard, si vous le voulez bien, parce que je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur, malgré qu'il soit douloureux d'en parler pour vous. Ce sont les Men in Black.
Oui, là, aujourd'hui, Bob, vous m'avez apporté, vous m'avez amené sur une piste que je n'ai à peu près jamais discuté sur mes émissions, sauf par l'intermédiaire d'invités qui arrivaient à m'en parler, comme Jimmy Gieu, l'ufologue français très connu.
Oui.
Et il nous contait ses mésaventures avec les Men in Black, mm-hmm. surtout suite à la sortie de son fameux livre « Alerte rouge », là, tome 1, tome 2.
Mm-hmm.
Et puis, quelques années plus tard, il décédait, alors qu'il n'avait aucune raison de mourir de ça, ou d'autre chose. Mais, et moi-même, j'ai été pris dans le giron des Men in Black à quelques reprises, on pourrait dire au moins à 3 reprises, et allons-y directement dans le sujet.
Ouais.
Un soir, ça sonne à la maison, à Mont-Saint-Hilaire.
Ouais.
Il est 7h30 le soir. Je descends l'escalier, j'ouvre la porte et je me fais tirer à l'extérieur de force très rapidement, subitement, alors que je m'attendais à rien. J'ai juste eu le temps de jeter un regard sur ma femme qui faisait de la le repas, préparait le repas sur le poêle.
Mmh.
Et j'ai eu un étrange de sentiment intérieur que c'était la dernière fois que je la voyais. Et j'ai pas le temps de lui dire bonjour ou quelque chose. C'était fou, je suis aspiré dehors par quelqu'un qui me tient par les épaules, qui me tire dehors. Et il ferme la porte.
D'accord.
Alors je suis dehors à l'obscurité. On est au mois d'octobre.
Mm-hmm.
Et j'aperçois un deuxième personnage à côté de lui. Des gars bâtis, de taille très grand, fort, avec un chapeau sur la tête et habillé en noir.
Ouais.
Bon. Alors je comprends un peu de qui il s'agit.
Ouais.
Et dans l'entrée chartière, dans le driveway, là, juste à côté de la maison, il y avait une automobile avec un autre type qui était assis au volant. Et le moteur tournait toujours.
Mm-hmm.
Et là, il m'accote et il me dit « Vous êtes allé trop loin, M. Glenn. Vous savez qu'actuellement, sur 5, vous en avez encore heureusement 3 qui prennent votre défense. » Je ne sais pas de quels 5 dont il parlait, mais ne faites pas de prochain faux pas, ça pourrait vous coûter très cher. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Parlez de ce que vous voulez, de ce qui se passe dans le monde. Mais ne parlez pas d'événements, de faits, qui se rapportent à ce qui se passe ici, au Québec.
Ah oui?
Alors, la consigne était claire.
Mm-hmm.
On peut parler de choses qui se passent en Amérique du Sud, même en France, pour nous, c'est loin. Et il n'y aura pas quelque chose qui peut ébranler, parce que on sait les gens sont assez égocentriques. Si ça se passe aux États-Unis, les tornades là de... Bon, je sais pas ici, on est capable de regarder à la télévision chez vous, la pluie, les inondations.
Mm-hmm.
C'est pas ici, alors on s'en fout un peu. Alors, si on touche à l'insolite de manière dérangeante,
mm-hmm.
avec des informations très dérangeantes, il faut que ce soit loin.
Alors,
si c'est loin, ça peut passer.
Mais dites-moi, Richard,
oui.
D'après vous, alors moi j'ai une petite idée, mais ces hommes en noir, qui les commandite? Qui sont-ils? Parce que est-ce que ce sont des envoyés des gouvernements de chaque pays? Est-ce que c'est une entité différente? Qu'est-ce que c'est?
Je croirais personnellement qu'il s'agit d'abord d'une organisation
mm-hmm.
très proche d'un gouvernement planétaire qui existe depuis la nuit des temps. On se sert beaucoup des sociétés secrètes, entre autres, on va parler des francs-maçons ou de d'autres, les Illuminati maintenant, on les nomme comme ça, pour soi-disant être l'autorité occulte de la planète Terre. Je ne crois pas que ce soit ceux-là. Ceux-là sont un petit peu l'écran de fumée. Faire croire à l'humanité qu'il y a des gens en pouvoir dans des sociétés secrètes. Parce que ça les éloigne encore de la réalité. Nous, on va penser que ce sont... Bon, je pense à Mozart. Vous vous souvenez de Mozart?
Oui.
Avant de mourir, il avait eu la visite d'un homme en noir qui lui avait passé la commande d'écrire un requiem.
Mm-hmm.
Et Mozart n'a jamais terminé le requiem. Il est mort pendant qu'il écrivait son requiem.
Mm-hmm.
Ça s'est terminé par Salieri. Cet homme en noir lui apportait un petit peu d'argent et régulièrement, il venait se présenter le vendredi en lui disant « Bon, est-ce que ça avance le requiem?
Ouais. »
approché? Bon.
Ouais.
Puis ça l'a rendu malade, Mozart, et ça l'a tué. Vous connaissez l'histoire de Wilhelm Reich? Wilhelm Reich, qui est un psychiatre extrêmement ouvert d'esprit,
mm-hmm.
il a travaillé sur ce qu'on appelle l'orgone, le générateur d'orgone, et qui permet, il avait même inventé un canon à orgone pour tirer sur les soucoupes volantes, les ovnis.
D'accord.
Parce que pour Wilhelm Reich, c'était certain qu'il s'agissait de manifestations néfastes à l'humanité. Pas diaboliques dans le sens religieux, là.
Oui, bien sûr.
Mais dans le sens anti-humain.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et ces canons à orgone avaient un effet sur ces fameux ovnis qui périssaient, qui avaient des problèmes de circulation.
Ouais.
Et on a accusé Wilhelm Reich de toutes sortes de défauts et on l'a envoyé en prison.
Ouais.
Et la veille de sa sortie de prison, Wilhelm Reich meurt en cellule d'une crise cardiaque. Saint-Piternel, crise cardiaque.
Bien sûr, ça arrive souvent d'ailleurs, dès qu'on s'intéresse à des choses un peu particulières. Mmh. La crise cardiaque est un point commun à tous les gens qui dérangent.
On a très peur.
Ouais.
Au moment où on se parle, Bob, présentement au Québec, on a un journaliste d'enquête qui a été mis dehors de la société Radio-Canada, la société d'État, parce qu'il a fouillé en tant que journaliste d'enquête dans des dossiers qui ont dérangé la société d'ici.
Eh bien sûr, totalement.
Il a eu, samedi dernier, un accident d'automobile terrible. Et depuis, les journalistes cherchent à savoir est-ce que Normand Lester est décédé, est-ce que Normand Lester va survivre. Au moment où on se parle, Bob, ça fait déjà 4-5 jours, là, on n'est pas capable de savoir dans quel état est ce fameux journaliste d'enquête qui est vraiment connu au Québec, qui a publié plusieurs livres, dont un en rapport avec le fameux système ARP.
Ah oui, ARP.
Oui, fatalement.
Donc,
Et il est entre la vie et la mort. Moi, j'ai eu un de mes recherchistes très, très proche de nous, qui est aussi un journaliste d'enquête, qui s'appelait Serge Monard.
Alors, vous bougez pas, Richard. On va en parler dans quelques instants de Serge, juste après la première pause de notre entretien. Je rappelle d'ailleurs que vous, sur votre site, il se passe des choses, mon Elliot.
Oui, vous mettez tous les liens de la discussion sur le site ésotérisme-exp.com.
Allez-y, vous qui êtes en France, allez faire un tour sur ce site parce que il y est hyper complet. Et en plus, vous n'arrêtez pas de rajouter des documents au fil de notre discussion. Vous restez avec nous, mon nom est Bob, et je vous dis toute la vérité. Richard Glenn est avec moi dans un instant, et je voudrais saluer Béa, une amie à nous qui est dans un taxi qui nous écoute, semble-t-il, tous les soirs, et qui est piloté par Madani qui adore les complots d'État. On ne pouvait pas mieux tomber avec les Men in Black. Merci Madani, en tout cas, de nous écouter dans ton taxi.
Dorénavant sur Ado, les plus grands mystères de notre vie.
Les plus grands mystères de notre vie.
Bob vous en dit toute la vérité.
Il est 23h13, merci de nous écouter à Paris sur 97.8 et à Toulouse sur 93.1 et bientôt dans 40 villes de France et peut-être même au Québec, sait-on jamais, si une station veut bien retransmettre ce programme un de ces jours. En tout cas, nous y sommes au Québec avec Richard Glenn, producteur de l'émission Ésotérisme Expérimental. Richard, donc on est et on va parler jusqu'à 23h59, l'heure à laquelle je vous libérerai de ces Men in Black, et on parlait de l'homme vos enquêteurs qui a eu affaire à ces Men in Black, c'est Serge.
Oui, Serge Monard, qui est un journaliste d'enquête internationale qui avait des ramifications surtout aux États-Unis, ouais. Mais il était marié à une femme russe. Et il parlait le russe. Et il avait des ramifications aussi derrière autrefois le rideau de fer.
Ouais.
Et il montait des dossiers, il venait nous les présenter sur l'émission, entre autres sur la question des vaccinations massives et les trucs qu'il y a derrière les vaccins. Toutes les magouilles qui se passent politiquement à travers le monde. Et évidemment, un jour, il a sorti un livre sur les ovnis de l'armée. Et ça a été son coup de mort, parce que quelques mois plus tard, ben, il mourait d'une...
crise cardiaque.
Ah, mais vous êtes voyant!
Comme par hasard.
C'est magnifique.
Comme par hasard, oui. Alors qu'il était en pleine forme physique, un homme bâti, oui. C'est un dossier délicat et périlleux. Et je vais te dire, Bob, que j'ai l'intention d'en parler, mais pas tout à fait de la manière la plus dark, la plus sombre qui soit.
D'accord.
Je vais plutôt présenter l'aspect du psychiatre Leo Sprinkle, qui lui m'avait donné son point de vue là-dessus, parce que lui aussi travaille aux États-Unis à l'Université du Wyoming, sur les cas de contactés, des enlèvements et tout ça. Il est très près de ce qui s'est passé dans des cas d'enlèvement, le Wyoming. On sait que c'est l'État qui a été choisi pour le film Rencontre du troisième type. Il est professeur à l'université en psychiatrie. Il était un ami de Mac, comment il s'appelait, le psychiatre américain.
John Mac?
John Mac, exactement. Ouais. Qui est décédé, non pas d'une crise cardiaque, lui, mais...
accident de voiture.
Oui, comme notre ami Norman Lester, présentement, qui, entre la vie et la mort, on ne sait pas ce qu'il deviendra. Bon, alors... lui, il me disait, c'est un peu les Men in Black comme des chiens de berger.
Oui.
Vous savez, quand un berger a tout un troupeau, il peut pas être partout en même temps sur le terrain, alors il y a des chiens. Des chiens de garde, des chiens de berger. Et ces chiens-là, ils sont là pour protéger les moutons, mais aussi les garder dans le troupeau, aller chercher des moutons égarés, et ramener les moutons dans le troupeau. Et ceux qui ont la mauvaise tête, ben les chiens sont même aptes et autorisés à mordiller les jarrets, les moutons récalcitrants.
Bien sûr.
Un peu comme les Men in Black seraient chargés par une autorité planétaire qui dirige le monde en coulisses. Et vraiment, là, je ne veux pas mettre le doigt sur aucune obédience, qu'elle soit raciale ou qu'elle soit nationale. Elle passe d'une nation à une autre en passant, là. Tu sais, comme je... La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est quitté justement sur la question que vous m'aviez posée, qui sont les Men in Black. Et j'ai répondu du tac au tac. Autrefois, les ovnis, c'était l'apanage des nazis, avec Adolf Hitler et ses soucoupes volantes Annie Boo, qui voulait dire rendez-vous. On sait qu'il y avait travaillé énormément sur la fabrication de soucoupes volantes. Ils ont des bases dans l'Antarctique. Ils ont immigré beaucoup, les autorités en Amérique du Sud.
Ouais, c'est sûr.
Et cette société qu'on appelait la société de Thulé était en rapport avec des êtres qui venaient d'Aldébaran et qui étaient capables et en capacité de diriger le monde. Et ils ont rendu fou un peu le Adolf Hitler, qui avait des idées très claires, très arrêtées, comme s'il y avait un plan de travail. Tu sais, Mein Kampf, il l'a écrit quand il était en prison. Mais il était pas tout seul dans sa cellule. Il y avait quelqu'un qui était avec lui, qui lui téléguidait l'information. Puis là, il est sorti de là avec son Mein Kampf. Puis il est devenu élu démocratiquement, là, élu par le peuple, par la majorité.
Bien sûr,
il a pris le pouvoir.
Ouais.
Bon, mais après la guerre... on s'est partagé par le projet Paperclip, les savants qui sont allés d'un côté ou de l'autre, là, en Russie ou aux États-Unis, avec, entre autres, Wernher von Braun,
qui
a réussi à mettre les Américains sur la Lune en premier. Wernher von Braun travaillait sur les V1 et les V2, à l'époque d'Adolphe. Et une fois rendu aux États-Unis, ben c'est ça. L'hégémonie, soucoupe volante extraterrestre, se sert du peuple américain. Et puis ils sont très, très agressifs, sont très guerriers, très querelleurs, pour faire law and order, la loi et l'ordre.
Mais alors dis-moi,
sur la planète.
Mais Richard, est-ce que les gouvernements de nos pays sont au courant de cette garde, entre guillemets, universelle que sont les Men in Black?
La dernière rencontre qui a eu lieu à Copenhague en décembre 2009, Si vous vous souvenez, c'était une rencontre, soi-disant, pour l'écologie, la planète, pour sauver la Terre, etc. Et jusqu'à la dernière minute, tout le monde boudait cette fameuse rencontre de Copenhague. Et curieusement, dans les 15 jours avant la rencontre, tous les chefs d'État ont commencé à dire « oui, on va être présent, oui, on va être présent ». Entre autres, le président des États-Unis s'est déplacé. Notre premier ministre du Canada, qui est pas intéressé, tout d'un coup, il s'est rendu là. Chez vous aussi, je pense que c'était à l'époque Sarkozy.
Ouais.
Ben, tout le monde s'est rendu à Copenhague. Et dans une salle attenante à la salle de l'Assemblée générale, seulement les chefs d'État d'importance capitale auraient eu une rencontre en privé, tête à tête, avec des représentants que d'autres appelleront extraterrestres, que d'autres appelleront du fameux gouvernement mondial, le gouvernement central, qui est pas humain, qui est supra-humain, qui dirige le monde, et comme des parents qui dirigent l'éducation de leurs enfants, ben des fois, les enfants sont envoyés en punition. Bien des fois, on laisse les enfants se tirailler, s'arracher les oreilles et puis se battre entre eux un peu pour qu'ils comprennent des choses. Parce que c'est avec les événements négatifs qu'on finit par se dire « ça a été trop loin
».
Les faux crématoires, c'est pas une chose à répéter.
Oui, je vous confirme. Ouais.
Alors, évidemment, le mur de Berlin qu'on a monté pour séparer l'Allemagne, on l'a reconstruit actuellement autour de Jérusalem. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui comprennent, puis il y en a qui comprennent pas du premier coup.
On comprend pas toujours du premier coup, ça c'est sûr. Mais Richard, les Men in Black, parce que...
Alors, je pense que les gouvernements du monde, surtout ce que j'ai su par Copenhague, ont été informés qu'on arrivait bientôt dans une nouvelle phase du fameux phénomène extraterrestre. Qui soit dit en passant, lorsqu'on se reparlera, Bob, j'irai encore plus loin dans d'autres types d'informations qui sont toutes appuyées. Vous disiez tantôt sur le site d'ésotérisme expérimental sur Internet, on peut suivre notre conversation parce que mes techniciens, entre autres Gilles Surprenant, qui lui collige l'information, les dossiers, à mesure qu'on se parle, il est avec moi depuis 1978. Ouais. Alors, il connaît tout. Il sait tout. Il sait par où aller pour aller chercher l'information dont on parle. C'est toujours étayé, c'est pas de la foutaise.
Mais bon, le salut, hein, Gilles Surprenant.
Ah, je suis content pour lui, là, parce que il est toujours dans l'ombre. Hein.
Ouais, non, mais on le salue, toi, parce que...
Toute ton équipe, là, Mathieu, Étoile, là, comment il s'appelle,
Elliot, et puis Hélène également. Moi, j'adore que tout le monde ait un peu de lumière sur le visage, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable, ceux qui sont derrière.
Eh oui.
Alors...
Même, on pourrait pas faire... toi et moi, ce qu'on fait, si on n'avait pas tout l'orchestre, hein. On est le chef d'orchestre.
Ça, c'est sûr. Alors, les Men in Black, est-ce que physiquement, parce que j'ai regardé encore une vidéo cet après-midi, c'était sur YouTube, une vidéo surprenante, c'était dans un hall d'hôtel et on voit d'un immeuble aux États-Unis, visiblement, et on voit ces deux personnages. Même dans leur démarche, on a la sensation qu'il n'y a rien d'humain. C'est-à-dire que, est-ce que physiquement, les gens qui ont été en contact avec eux, vous l'avez été, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un peu d'humanité chez ces gens-là?
Absolument pas.
J'en étais sûr.
Absolument pas. Bob, oublie pas, je t'ai dit, je ne parle jamais d'eux. Il y a un proverbe au Québec où il y a un dicton. Je sais pas, j'ai demandé à Mathieu, ton recherché, si je pouvais le dire en onde, mais c'est tellement clair, ça dit tout. Plus on brasse de la merde, plus ça pue.
Ah oui, ça c'est sûr, bravo. Plus ça pue. Mais bon, alors, moi je sais que... Je sais pas si... Est-ce qu'on a des Men in Black en France? Est-ce qu'ils sont dans le monde entier? Parce que je disais tout à l'heure que... Un soir, effectivement, Richard, on a eu une expérience assez incroyable. Mathieu a monté un peu stressé en se disant, en sortant, il y avait une voiture noire qui était juste devant la station et il y avait deux mecs à l'intérieur, les vitres étaient teintées, etc. Alors, est-ce que c'était pure coïncidence? Est-ce qu'on l'a, est-ce que avec tous les dossiers qu'on aborde, est-ce qu'on s'est pas fait un mytho? Et puis, beaucoup de gens m'ont mis sur la piste de ces Men in Black. Non, déconne pas. Ça existe même en France. Ça existe dans le monde entier?
Je croirais bien que oui. Parce que, comme je le disais, si ce sont des polices ou des polices secrètes d'un gouvernement mondial, planétaire, ils sont partout. Ils vont là où il y a des événements, où il y a des éléments, où il y a des individus qui pourrait déranger l'ordre établi. Ouais. Et si on se souvient de la fameuse phrase dans le film Men in Black, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, le film dont vous avez parlé en introduction, là,
bien sûr.
Drôle, un petit peu une caricature.
Ouais, ouais, ouais.
Et quand même, il y a de l'information réelle là-dedans.
Ben justement, on va y venir à ce film, hein, Richard.
Ah, vous avez des extraits, j'imagine?
Non, mais j'aimerais que vous me donniez votre point de vue sur ce film, parce que c'est quand même assez intéressant, parce qu'on a la sensation quand même qu'aujourd'hui, finalement, la divulgation, elle arrive par une société qu'on appelle Hollywood, hein.
Et Hollywood, vous savez d'où ça vient, le mot Hollywood, c'est pas Hollywood, c'est pas un bois béni, là, c'est pas le Holly, H-O-L-Y, ça serait Holly, le bois béni.
Ouais.
Non, c'est Hollywood, le wood, c'est du bois, hein, c'est du bois, hein, tout le monde comprend.
Ouais.
Holly, c'est le bois de hou, le bois de hou, tu sais, quand on dit on va s'embrasser sur...
Oui, sur le hou, à Noël, ou un truc comme ça, donc voilà.
C'est ça, et quelle est la particularité de ce bois de hou? C'est avec le bois de hou qu'on fabrique les baguettes magiques. Dans la tradition, là.
D'accord.
Alors, on est capable de faire des illusions avec la baguette magique, on est capable de faire apparaître des choses, de faire voir, de faire croire, etc. Et Hollywood, mais c'est Hollywood pour nous, puis c'est Bollywood pour les Indiens des
Indes. Bien sûr.
Et chacun, le phénomène qui dérange la conscience de l'être humain, passe par tous les chemins, un peu comme des racines d'un arbre, là. Ils vont s'infiltrer de toutes les façons possibles pour changer notre conscience ou pour teaser, là, intéresser notre conscience à voir une nouvelle façon les choses, la réalité, pour nous faire évoluer. Je disais au début, des parents qui veulent s'occuper de l'éducation.
Bien sûr.
Pas pour qu'ils se tuent.
Oui.
Parce que, voyez-vous, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée avec les bombes atomiques, mais depuis, on ne s'est pas lancé de bombes atomiques sur la tête.
Ouais.
Et ça nous retient probablement.
Ben oui, c'est une force de dissuasion quand même, au départ.
J'ai entendu le témoignage d'une de vos invitées qui disait, oui, ils ont décontaminé la scène.
Mm-hmm.
Oui, ils ont probablement aussi sont intervenus dans Fukushima.
Mm.
Ils sont intervenus à Tchernobyl.
Mm-hmm.
Nous, les autorités, là, les vrais, ceux qui sont les scientifiques sur le terrain, font partie du secret. On ne doit pas dire au public, à la population, que le phénomène extraterrestre, mais ça va finir par arriver, là, mais que le phénomène extraterrestre est une réalité. J'allais presque te dire que la plus belle preuve que le phénomène extraterrestre existe, c'est la présence des Men in Black.
Ouais. Alors, on va continuer à en parler de ces Men in Black jusqu'à minuit.
Dorénavant sur Ado, les plus grands mystères de notre vie.
Les plus grands mystères de notre vie.
Bob vous en dit toute la vérité.
Avec Richard Glenn, ce soir, on parle des Men in Black et vous serez ravi d'apprendre, Richard, que dans quelques jours, j'aurai Jean-Gabriel Grélet qui sera avec moi pour parler de son ouvrage La Genèse d'un secret d'État. C'est juste assez incroyable, c'est son bouquin et je vais le lire de ce pas puisque je l'ai reçu aujourd'hui par son attaché de presse. Et je pense que ce dossier OVD, bien sûr, finira par cracher le morceau, j'en suis sûr, incertain. Alors, vous disiez à l'instant que finalement, peut-être que cette divulgation va passer, en tout cas la preuve, peut-être que le dossier OVNI existe, c'est l'existence de ces Men in Black.
Écoute, Bob, on ne peut pas nier quelque chose qui n'existe pas.
Mm-hmm.
On ne peut pas dire il ne faut pas parler de quelque chose. Mm-hmm. Si la chose n'existait pas, on n'en parlerait même pas.
Mm-hmm.
Si on en parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et on nous le cache. Et les Men in Black, leur première fonction, c'est d'enlever les preuves et de dénaturer les témoignages, soit de les ridiculiser, soit de les dénaturer dans le sens de dire non, c'est pas ce que vous avez vu.
Mais c'est un peu, Richard, c'est ce qui se passe dans le film, hein, finalement.
Je veux dire, moi, je me suis pas appuyé sur le film Men in Black.
Oui, mais je sais bien. Mais c'est parce que eux, ils ont pris un peu l'angle humoristique. Mais on a la sensation que les Men in Black que l'on montre dans le film, finalement, ils ont exactement la même action que ceux que l'on peut rencontrer dans la vraie vie.
Et la façon d'éduquer la population par des films, puis même des films comiques, drôles, c'est de laisser passer la véritable information pour qu'un jour on ne reproche pas aux autorités que nous connaissons Donc j'entends par là les gouvernements qu'on élus, qu'on a élus démocratiquement et tout ça, qu'ils auraient caché l'information. Ils vont dire, ben non, vous avez qu'à aller regarder dans les films, on avait donné l'explication, tout était là. Mmh. Il fallait éduquer la population, bien comme sûr. Je dis souvent. Mmh. La Bible, l'Ancien Testament, les gens, là, les jeunes, la nouvelle génération, on leur parle de Noé, ils savent un petit peu, mais ils ne vont pas trop loin. Là, si je parle de Jacob et l'échelle de Jacob, est-ce qu'ils savent ça veut dire quoi?
Mmh.
Bon, non. Maintenant, la nouvelle Bible, c'est Star Wars, la guerre des étoiles.
Ouais.
Allez-vous recevoir votre...
Oui. Alors, on va très prochainement, malheureusement, ça devait être demain, mais il est souffrant, Paul-Georges Sansonetti, mais c'est repoussé la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent. On va refaire, et c'est promis, cette symbolique sacrée dans Star Wars, parce que c'est juste extraordinaire, mais c'est vrai qu'il nous a appelé il y a 3 jours en disant, je sors de chez le Toubib et je suis arrêté pendant pas mal de temps, donc d'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement à Paul-Georges Sansonetti. Mais on va faire, bien sûr.
Vous savez à quel point j'ai hâte de l'entendre, parce que en sortant de la télévision et avant d'entrer sur le câble Internet, j'ai créé ce qu'on a appelé l'école Jedi.
Oui.
Et Jedi, c'est le nom qu'on donne à ces personnages dans Star Wars, la guerre des étoiles. En passant, vous lui demanderez pourquoi est-ce qu'en français, ça s'appelle la guerre des étoiles, et en anglais, c'est Star, au singulier, Wars, au pluriel.
Ouais.
Ce qui est singulier devient pluriel, pluriel devient singulier. Ben, selon qu'on est français, francophone ou anglophone, il y a un message derrière ça.
Ben, sûrement, d'ailleurs, je lui poserai la question, parce que c'est vrai que j'avais pas envisagé ça et j'avais pas fait attention.
C'est
les Men in Black, vous y avez été confronté, et notamment vous avez dû leur remettre un film 8 mm Kodak, c'était quoi ça?
Oui, dans les débuts de mes émissions, on dirait que au début, en 76, 77, 78, les gens étaient très portés à s'ouvrir, à venir témoigner devant la caméra. On les voyait, le visage, les gens donnaient leur nom complet, puis oui, j'ai vu passer, oui, il y a eu un atterrissage, on allait sur le terrain avec les traces sur le sol et tout, puis tout était facile. Et au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans, c'est devenu de plus en plus lourd,
Ouais.
Un jour, je reçois un téléphone d'un type qui est pilote d'avion de ligne.
Ouais.
La ligne nationale ici s'appelle Air Canada, comme vous avez Air France.
Ouais.
Et il me dit, j'ai toujours sous mon siège de pilote une petite caméra. À l'époque, les caméras vidéo n'existaient pas. Donc, c'était du film 8 mm, mais familial de Kodak. Il dit, on voit des choses dans le ciel des fois. Puis il dit, j'en ai vu toute une. Puis il dit, j'ai tout ça, monsieur. Monsieur Glenn, je regarde votre émission et je veux vous la donner et je veux que vous la présentiez au public. Moi, j'avais l'équipement pour pouvoir filmer le film. Bon, alors je lui dis, écoutez, passez-moi ça, puis c'est parfait, c'est merveilleux. Alors c'était dans le cercle polaire. Lorsqu'ils traversent, ils passent par l'Amérique du Nord, par le pôle Nord, puis ils s'en vont vers le Japon, la Chine. Et il avait filmé un ovni qui les avait suivis pendant quelques minutes. Il a eu le temps de prendre sa caméra sous son siège, l'armer, la placer comme il faut, puis filmer et voir l'appareil qui suivait l'avion de ligne. Et curieusement, alors que je n'avais eu qu'une communication au téléphone une fois, que j'avais reçu la bobine, j'avais eu le temps de regarder la bobine, mais pas en faire de copie, malheureusement, et je reçois un coup de téléphone, Monsieur Glenn, vous avez un objet qui nous intéresse. Il faudrait surtout pas vous en servir en public. Et vous allez nous la remettre en la plaçant, en la déposant dans votre boîte aux lettres à l'extérieur de votre maison. Et cette nuit, quelqu'un va venir la chercher.
Voilà, mais vous avez... c'est hallucinant.
Alors, j'ai dit, c'est qui, là? C'est une farce, là?
Ouais.
Premièrement, j'étais intrigué puisque j'avais parlé de ça à personne.
Ouais.
Personne, là. Et j'ai cette voix-là au téléphone.
Ouais. Bon. Donc ça veut dire déjà que vous étiez sur écoute.
Oui, mais on était en 1981, 81, 82, c'est étrange que c'était si vite. Moi, je vais te dire, Bob, tu l'es déjà, hein?
Sur écoute?
Toi aussi. Et votre équipe, probablement.
Ah!
Non, mais ce que je veux dire, c'est surveiller un jour si vous dépassez la... Mais je sais que la barrière est reculée. Avec les années, je sens que maintenant, il y a des choses qui se disent, qui ne se disaient pas il y a 20 ou 30 ans.
Ouais. Mais parce qu'en fait, on a la sensation, Richard, que finalement, ce qui a tout... fait exploser, c'est Internet. On a la sensation qu'Internet, finalement, a permis une communication et la communication entre les hommes de quatre coins du monde. Et donc, en fait, c'est presque immaîtrisable si, de la part des autorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire beaucoup, beaucoup plus de choses que l'on pouvait le dire dans les années 70 et 80.
Je pense qu'il faut pas se leurrer, Bob. Là-dessus, là, c'est une fausse vision de ce que pourrait être le contrôle qu'ils ont total sur n'importe quelle activité humaine. Ils pourraient facilement, déjà, il y a de la censure sur Internet. Déjà, il y a des pays qui n'ont pas accès à Internet, où il y a des dossiers, où il y a des sites qui ne peuvent pas entrer dans d'autres pays, etc. Mais regardez, vous et moi, on a comme une sagesse intérieure qui nous dit, il faut pas sauter la clôture. Il faut pas faire paniquer la population en leur disant des choses qui les feraient paniquer, qui tiendraient pas debout ou qui amèneraient, parce qu'il y a des gens qui sont faibles, là, en équilibre psychologique. Hein.
Bien sûr.
Un peu trop, puis c'est ça. Alors, il y a une façon d'agir qui fait que on a aussi une sagesse socialement. Là. On est moins fanatique qu'autrefois, on est moins religieux qu'autrefois, puis les dogmes religieux, c'est plus ça la loi. Là. On commence à saisir qu'il y a un humanisme.
Oui, puis je crois que, Richard, la chose est très intéressante, c'est de pas faire du sensationnalisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de comprendre les choses, mais pas faire du... Moi, c'est ce qui me dérange aujourd'hui un peu dans toutes les émissions de télé que je vois. J'en regardais une aujourd'hui, c'était la grande soirée du paranormal sur D8, alors ça D8, datait de 2009, un truc comme ça, ou 2010. Je suis tombé dessus ce matin, je mettais ça pendant que je bossais, et on est dans la sensationnelle perpétuelle. Donc c'est vraiment ce qui me gêne de plus en plus. Alors on va revenir dans un instant. Je suis obligé de marquer une pause, Richard. On se retrouvera dans un instant. Tout ça pour vous dire que l'adaptation télé de Bob vous dit toute la vérité a été signée.
Yes.
Ça y est, c'est sûr. Et on commencera par 8 documentaires. Donc on n'est pas là dans le poète-poète. Au contraire, on essaiera dans la même veine que l'émission de radio de comprendre lors de ces 8 documentaires de 52 minutes.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder. La vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. La vérité. 21h minuit sur Ado.
Le dossier Men in Black est ouvert ce soir avec un spécialiste québécois, Richard Glenn. On rappelle que vous pouvez aller sur son site, mon Elliot.
Hein. Oui, ça s'appelle esotérisme-exp.com.
Et il y a Gilles Surprenant qui, derrière, bien sûr, balance tous les documents qui ont rapport à notre discussion. Alors,
On voit présentement les deux Men in Black dans le hall d'hôtel dont on parlait tantôt.
Ah ben voilà. Donc,
ça, c'est sur la page d'accueil du site d'esotérisme-exp.com. Il est marqué au-dessus du logo de Bob vous dit toute la vérité, ta photo avec le logo. Juste au-dessus, il est marqué « Suivez-la par le complément surprenant Bob RG Men in Black, le MIB ». Vous cliquez là-dessus, puis vous allez en plein sur le document que Gilles Surprenant monte à mesure qu'on se parle tous les deux.
Ouais, c'est vachement bien fait, hein, Richard. Hein. Bravo, hein, c'est presque une émission de télé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le son et il y a l'image. Hein, donc, alors, Gilles, bravo. Voilà, donc
c'est surprenant.
Un jour, Bob, vous le ferez en Skype aussi, parce que présentement, je reçois des invités d'Europe, de partout, par Skype.
Oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Avec plaisir. Donc on essaiera de monter ça. Il faut qu'on en parle pour essayer de monter cela. Alors donc, je disais, il y a quand même quelque chose. Donc là, on vous demande, c'est Men in Black, de remettre un film filmé finalement par un pilote, hein, par les de d'Air Canada. Oui. Mais on a la sensation.
Regarde comment la chose s'est passée. La première journée, le lendemain matin, je n'avais pas déposé la bobine de film dans la boîte aux lettres.
Ouais.
Alors, j'ai reçu un autre coup de téléphone. Soit dit en passant, la personne n'a pas d'émotion dans la voix. Là, présentement, on se parle avec une chaleur humaine. Mais eux, c'est carrément de cette façon que vous devez comprendre, monsieur.
Ah oui, donc c'est robotique, presque.
Vous n'aurez pas deux fois la chance de... Bon, alors, c'est ça. Et cette deuxième fois-là, le lendemain, je reçois le téléphone.
Ouais.
Et... on me dit de regarder par la fenêtre du salon. Je regarde et je vois à l'extérieur, non pas une automobile, mais une camionnette noire, avec un type au volant qui tenait un téléphone cellulaire dans ses mains, alors qu'à l'époque, les cellulaires, très peu de gens en avaient. Là.
Ouais.
Mais ça existait, c'était des gros modèles dinosaures. Et il me parle, puis il me regarde, et puis il y a des verres fumés, puis il me regarde par la fenêtre du salon, je le vois. Il dit, vous avez un garçon? Ce serait dommage qu'en revenant de l'école, il ait un accident.
Ah, il vous dit ça?
Ça a été final, hein, monsieur. J'ai compris, hein.
D'accord.
Alors, la bobine de film est allée dans la boîte, hein.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'à un moment donné...
Dans la nuit, je me disais toujours, je vais regarder qui va venir la chercher, comment ils vont procéder.
Ouais.
Et incapable de sortir du lit.
Ah ouais.
Je suis resté figé, paralysé dans mon lit. Et ils sont venus parce que au matin, aux petites heures, j'arrive, puis la bobine était partie. Il y a eu Louise T., que j'ai reçue sur mon émission, ouais, avec un groupe dans un terrain de camping... dans le fond des bois, du camping sauvage, voit venir une soucoupe volante au-dessus d'eux. Ils sont 7-8 personnes adultes.
Ouais.
Et l'OVNI tourne au-dessus de leur tête et, oups, à un moment donné, ils ont comme une drôle de sensation. Et puis, ils sont encore là, mais ils sont tout assis. Ils sont tombés à terre. Ils sont comme assis ou tombés.
Ouais.
Je ne sais pas ce qu'ils nous ont jetés à terre, mais on était à terre. Elle dit, ça a pris presque une demi-heure pour se rendre compte qu'il venait de se passer 45 minutes sans qu'on réalise qu'est-ce qu'on a vécu durant les 45 minutes. Mais elle dit, on s'en parle, puis et finalement, elle m'a contact avec mes émissions. Toi aussi, tu vas avoir, ou tu as sûrement souvent des contacts avec des gens qui veulent avoir plus que juste passer à la radio ou à la télévision.
Ouais.
Ils veulent avoir un contact, de l'explication, etc. Malheureusement, on ne peut pas leur donner d'explication. On leur dit simplement, dites-le, faites-le savoir. Plus de gens vont vous entendre, plus de gens vivant la même chose viendront s'exprimer et un jour, on finira par saisir...
Bien sûr.
Ben oui. Alors, c'était la fin de semaine. Le lundi, elle va travailler. Et pour aller déjeuner, elle se rend à un petit restaurant comme elle va souvent. Elle n'avait parlé de ça à personne, à part du groupe d'adultes qui étaient chacun chez eux puis allaient au travail.
Mm-hmm.
Elle prend son café. Il y a un Man in Black qui rentre, qui vient la voir, qui vient s'asseoir, il s'impose à elle. Il lui dit, madame, je peux m'asseoir? Ben, tu sais, je peux pas dire non. Il s'assoit,
mm-hmm,
puis il commence à lui parler de la vie, du monde, de la société, est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? Louise a dit, je sais pas qui c'est ce personnage-là, habillé avec un imperméable noir. D'ailleurs, on le voit sur le complément surprenant, vous allez le voir, là.
Ouais.
On a reconstitué l'événement, nous, parce qu'à cette époque-là, Louise était un peu paniquée, mais elle cherchait à avoir de l'aide. Et la meilleure façon de procéder, c'était de la mettre sous hypnose pour voir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 45 minutes.
Et bien sûr.
Et évidemment, on comprend que le Man in Black est venu pour vérifier si elle se souvenait de quelque chose.
Ah ouais.
Et elle semblait ne pas se souvenir de rien. Alors je dis à Louise, on te met sous hypnose, on a une équipe des gens professionnels, et on va voir. Il n'y a rien sorti. Rien.
Comme si ça avait été complètement effacé de sa mémoire.
Exactement. Et ces Men in Black ont un pouvoir mental, hein, c'est terrible. Mmh. Ils ont une capacité d'entrer dans votre tête, d'aller chercher ce que vous voulez cacher.
Mmh.
Je dirais pas qu'ils peuvent lire votre pensée, mais ils peuvent... par peut-être votre réaction de nervosité ou d'angoisse intérieure, réaliser que vous êtes en train de cacher quelque chose. Alors, quand il pose la question, avez-vous trouvé quelque chose sur le terrain? Avez-vous gardé quelque chose? Avez-vous pris une photographie? Vous souvenez-vous de... Puis là, la personne, là, puis si la personne se souvient, ben, elle s'en souviendra pas après.
Ouais.
Ils n'ont pas le petit gadget là, qu'il y avait dans le film Man in Black.
Oui, bien sûr.
De petite lumière, là, fait un flash, mais c'est juste une façon de faire comprendre à la population qu'ils ont une technique aussi vite qu'un flash.
Ouais.
Fini, je m'en souviens plus.
C'est quand même assez incroyable ce cas de Man in Black, en tout cas cette affaire Man in Black. On continue à parler de tout cela jusqu'à minuit.
L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Ésotérisme expérimental, c'est un site sur lequel vous pouvez suivre toute cette conversation si vous êtes aux quatre coins de la planète et au Québec, parce qu'il est québécois, c'est Richard Glenn qui est avec nous. Alors Richard, on va évoquer bien sûr, quand on parle des Men in Black, on l'a un petit peu abordé, Jimmy Guilleux, qui pour nous et pour tout le monde de l'ufologie et du monde OVNI en France et même dans le monde, hein, est une légende, malheureusement disparue, mais quel a été son rapport avec les Men in Black?
Oui,
Oui, vois-tu, quand tu nous dis malheureusement disparu normalement à l'âge qu'il avait, il devrait être encore vivant, mais il est disparu quelques mois après avoir publié Alerte Rouge en rapport avec des... Et puis là, il était rendu fanatique, pauvre Jimmy. Moi, Jimmy, là, c'est mon plus grand ami en ufologie que j'ai eu. Jimmy, quand il venait au Québec, c'est chez moi qu'il venait. Et pendant, je dirais, une bonne quinzaine d'années, là, c'était régulier notre collaboration.
Ouais.
Il m'avait demandé de participer à un de ses dossiers, de ses émissions qu'il faisait. Et son caméraman, il avait pris contact avec moi au téléphone. Puis on s'est entendu. Ben, on ne s'était pas entendu parce que je lui avais pas donné ma réponse. Mais il dit, une fois que je serai rendu à Montréal, ben, pour pas refuser, il va venir. Alors, il me téléphone le matin pour me dire, « Monsieur Glenn, on vous attend, on est au pied du stade olympique de Montréal, arrivez. » J'ai dit, « Non, je peux pas y aller. » »« Non, je peux pas y aller. » Pourquoi? Parce que Jimmy voulait que j'explique des choses concernant... parce que Jimmy, étant donné qu'il était très intime, il connaissait mon vécu avec le phénomène extraterrestre, que je n'ose pas trop expliquer en public. Et surtout pas... dans le cadre d'une émission française que personne ne connaît, et on va entendre une histoire qui est tirée par les cheveux, et les gens vont dire, écoute, c'est un fou, ça, on devrait l'enfermer. Alors, je me suis dit, non, c'est pas le public qui peut être prêt à entendre ce que j'ai à dire. J'ai consacré toute ma vie, j'ai quitté le monde de l'enseignement et de l'éducation pour et parce que j'ai été mis en rapport avec le phénomène extraterrestre très jeune. Un jour, je m'ouvrirai à toi, Bob, et à votre public. Ça reviendra, mais il faut saisir qu'il y a deux types d'ufologues. Il y a des ufologues qui disent, comme j'en entends souvent chez toi, qui disent, moi, je suis tombé dans ça comme par hasard, je n'y croyais même pas. Et puis finalement, de fil en aiguille, je voulais même prouver que ça n'existe pas. Et plus j'ai cherché, plus j'ai eu la preuve du contraire.
Ouais.
Bon, ça, c'est un type d'ufologue. Mais il y a les autres. Ils sont très peu ufologues, ceux-là. Parce qu'ils l'ont vécu, puis ils ne cherchent pas les preuves, les traces, les témoins. Ça ne donne rien, c'est du temps perdu. On en écoute 50, on en écoute 5000, ça revient tout au même.
Ouais.
On n'est pas plus avancé sur la compréhension du phénomène. Sauf qu'on voit qu'elle est universelle, qu'elle rejoint autant tous les pays, toutes les races, tous les âges, etc. Et chacun le perçoit peut-être par le biais de sa culture, de son éducation, mais il y a une réalité objectif derrière tout ça. Et ça, ça prend des années pour trouver des filons qui nous amènent à « Oh, on met le doigt ». Moi, je te dis, il y a un gouvernement mondial qui dirige la planète et qui a des ramifications à travers le monde. Les Asiatiques parlent des corridors d'Agartha, et dont la capitale centrale est Shambhala. Et quand on commence à jouer à travers l'ésotérisme, c'est pour ça que moi, je n'ai pas appelé mon truc ufologie expérimentale. Je l'ai appelé ésotérisme. C'est d'aller au-delà des apparences, au-delà des formes. L'ésotérisme, je sais qu'en France, c'est mal perçu. Le mot a l'air de dire les tireuses de bonne aventure. Mais pour ici, c'est plus dans le vrai sens étymologique du mot ésotérique, c'est ce qui est de l'intérieur. Mmh. Qui est réservé qu'à des initiés, qu'à des gens qui... C'est pas juste du mélanger ou du n'importe quoi, là. C'est une démarche.
Et
je
sûr.
Sais que vous y arrivez lentement, je vous écoute régulièrement en passant, là, je vous fais entendre même chez les voisins, parce que l'été ici, j'ai des haut-parleurs et j'écoute votre émission en travaillant dans le jardin, en travaillant sur la cuisine. Et les voisins entendent, et ça a dérangé deux voisins qui sont venus.
Ah bon?
Ils m'ont demandé, mais c'est quelle émission? Ils cherchaient la bande de radio et c'est bon l'appel que vous avez fait. Pourquoi pas au Québec, il n'y aurait pas une station qui vous diffuserait, ça se pourrait?
Eh ben, on en a contacté quelques-unes. Bon, on n'a pas eu de retour hein, pour l'instant, parce que bien sûr, moi je connais personne au Québec, mais on aimerait bien être diffusé, bien sûr, au Québec, parce qu'on sait qu'on est très suivi au Québec, parce que beaucoup, beaucoup de gens nous écrivent sur le Facebook chaque jour. C'est beaucoup de mal.
Bob, avant qu'on se reparle une prochaine fois, moi je vais utiliser des contacts que j'ai. Oui, monsieur.
Eh ben, écoute.
Oui, monsieur. Vous n'êtes pas stéréo, vous n'êtes pas nécessairement sur la bande qu'on appelle la bande FM.
Non.
Bon, alors je connais une station, pas qui se meurt, là, mais qui a beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas en FM, ils ne sont pas en stéréo.
Ouais.
C'est parfait pour une radio parlée.
Ah ben oui, pour une émission de talk, il n'y a pas de problème. Pour un talk show, ben en tout cas, on sera heureux, en tout cas, de...
on va se reparler, mon frère.
On va se reparler.
Les commanditaires, par contre, est-ce que, je demande en ondes, là, on perd du temps avec les spectateurs, là,
oui.
Est-ce que les commanditaires pourraient être des commanditaires locaux?
Oui, il n'y a pas de problème. On aura l'occasion de parler de tout cela, mais il n'y a aucun problème. Donc, de toute façon, voilà, on va s'en reparler parce que vraiment, j'aimerais vraiment être au Québec. En tout cas, donc, les Men in Black, il y a aussi alors, Jimmy Guilleux, je ne sais pas si on avait fini cette affaire. Je crois qu'on n'a pas fini.
Ben, Jimmy, finalement, je n'ai pas participé à son émission parce que j'avais justement eu des pressions alors que j'avais dépassé la fameuse barrière limite qu'on m'avait donnée.
Oui, c'est ça.
J'avais annoncé aux gens que on avait ici des bases souterraines très importantes, dont une qui a été construite un peu comme à l'exemple de Rennes-le-Château dont vous parliez il y a très peu de temps.
Oui.
Et Saunière avait fait venir des employés d'Allemagne parce qu'ils ne parlaient pas français et qu'ils pouvaient construire toute son installation de Rennes-le-Château sans que les villageois, sans que les locaux puissent échanger avec les bâtisseurs. Alors ici au Québec, on a fait construire un aéroport qu'on appelle Mirabel, qui est immense et qui sert à rien. Les Américains ont exigé d'avoir cette piste de très haute qualité, les fondements, les fondations et tout, pour recevoir, autrefois, la navette spatiale en cas de panne, en cas de crise. Il y avait besoin d'une piste de survie
De secours.
De secours, oui, c'est ça. Et Mirabel, ça a été construit, on a complètement enlevé les habitants de toute la région, on a tout mis à sac et à feu et à sang quasiment, là. Tout a été détruit, les fermes, tout a été démoli, ça s'appelait Saint-Scolastique, et c'était un scandale. Et on a fait venir des employés de l'extérieur qui construisaient la fameuse piste avec des soubassements, des étages souterrains. Et quand on prend un dictionnaire et qu'on regarde la définition même de Mirabel, c'est une abbaye souterraine. Bon, alors j'ai alerté le public avec ça, j'ai dit, écoutez, vous allez comprendre, les bases, il n'y a pas rien qu'aux États-Unis qu'il y a des bases souterraines. Et il y a une place ici qui s'appelle Saint-Barbecue. Vous l'appelez comme ça, Saint-Barbecue. Vous savez, un barbecue, c'est vous appelez ça comme ça chez vous?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon. Ben, c'est parce qu'ici, on a une compagnie de barbecue qui s'appelle Saint-Hubert. Alors, les barbecues Saint-Hubert, c'est très, très connu. Et la base est installée à Saint-Hubert. Mais plutôt que de l'appeler Saint-Hubert, il y a une base souterraine à Saint-Hubert. Ben, je leur disais, il y a une base souterraine à Saint-Barbecue. Pour qu'ils fassent le lien. Et ça faisait déjà deux éléments. Le troisième, j'ai été leur dire en pleine télévision que le nom de code des tigris pour l'armée canadienne, c'est ce qu'on appelle les Little Beaver. Et les Little Beaver, ça venait du fait qu'on avait un lutteur qui s'appelait Little Beaver, qui était un lutteur nain. Et il luttait contre d'autres nains. Et des fois, il mettait deux nains contre un bonhomme bien bâti. Puis ça faisait des bons spectacles. Mais Little Beaver, c'est le nom de code qui est utilisé par l'armée canadienne pour parler des
tigris.
Dans les bases de Saint-Barbecue ou de Mirabel, entre autres. Et alors, là, j'ai eu la visite des hommes en noir.
Ils m'ont
dit, monsieur, vous avez été trop loin. Vous allez payer pour. C'était quand même pas très compromettant puis très dangereux. Mais mon émission a été retirée des ondes pendant un certain temps.
Ah, carrément?
Bon, oui, j'ai eu de graves problèmes. Et c'est à la même époque que Jimmy voulait que je participe à son émission. J'ai dit, non, non, tout est sous la glace, là. On ne touche plus à rien.
On a la sensation quand même qu'à une période vraiment en Amérique du Nord, alors que ce soit aux États-Unis ou au Québec, Canada, même j'imagine au Canada anglophone, ça a été quand même un vrai, vrai, vrai problème. Bien plus qu'en France, on a la sensation que l'Amérique du Nord a été... Il y a eu une psychose de ce dossier OVNI, de ce dossier Men in Black finalement.
Oui, parce que les autorités gouvernementales américaines d'abord... On est un peu le chien de poche des Américains, nous, le Canada. Faut pas l'oublier, là. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on dit ici, quand les Américains toussent, nous, on a la grippe. c'est terrible, là. Mais, et j'ai fait souvent des conférences aux États-Unis. À chaque fois, j'étais spoté, surveillé par des autorités du gouvernement canadien. À chaque fois. Une fois, j'avais oublié de porter à la boutonnière le drapeau du Canada en épinglette. Et on est venu me le placer en voulant dire, Monsieur Glenn, quand vous êtes à l'extérieur du pays, il faut que vous le montriez que vous êtes Canadien. Ah bon? OK.
D'accord. Okay.
Mais c'est comme je dis, les Américains sont maintenant ceux qui ont une relation avec ce fameux gouvernement dont Adolf Hitler avait avant eux le contact.
Ouais.
Et maintenant, le pouvoir va passer à la Chine. Hein?
D'accord.
Alors, on va retourner là où tout a commencé. Finalement, mm-hmm. on va retourner avec Shambhala, Agartha, etc. Mm-hmm. Et les ovnis. Il y a des ovnis qui sont matériels, mais il y a des ovnis qui sont pas matériels. Et on sait très bien que les temples Shaolin, entre autres, mm-hmm. d'entraînement, de tradition, d'ailleurs, des Jedi dans Star Wars, vous les voyez se battre avec, c'est pas des sabres, mais des sabres laser, mais il y a encore un pont à faire avec la tradition asiatique. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ils sont capables de créer des égrégores de formes, des projections. Ils se concentrent à plusieurs, ils font des mantras, des sons, ils créent une forme. Vous savez, les Hébreux, ils parlaient, eux, de le golem, là.
Ouais. Mais Richard, hier, on parlait avec Yves Coupry, qui a écrit OVNI, enquête sur un secret d'État, co-auteur de ce bouquin avec Egon Kragel, et qui s'était aperçu, finalement, qu'il y avait une théorie qui était assez judicieuse, comme quoi les extraterrestres fabriquent aussi des images, des hologrammes, et nous mettent devant les yeux ce qu'on veut bien nous mettre, quoi, finalement.
Et ils ne le mettent pas nécessairement devant nos yeux, ils le mettent dans notre tête. Ils se servent de nos neurones qu'on appelle notre cerveau.
Ouais.
Ils sont capables d'agir par des ondes, on connaît les fameuses ondes scalaires,
ouais.
qui permettent d'agir sur les deux lobes de manière perpendiculaire avec le lobe droit et le lobe gauche.
Mm-hmm.
Ils sont capables d'entrer dans nos cerveaux,
ouais.
pas d'entrer, mais d'agir, d'affecter ou d'infecter
ouais,
notre
ça.
Perception
ouais.
pour nous faire voir. Un jour, on aura des télévisions qui ne seront pas sur des écrans à l'extérieur de nous, on les aura dans la tête.
Ouais.
On aura simplement un appareil qui va émettre et qui va nous permettre, comme présentement, il y a des gens qui ont des téléphones avec des oreillettes.
Ouais.
Puis on voit pas d'appareil. Sous leurs cheveux, ils ont une oreillette qui est souvent cachée par les cheveux.
Mm-hmm.
Ils parlent tout seuls. On dirait qu'ils parlent tout seuls. Ils sont sur la rue, puis ils parlent parce qu'ils communiquent au téléphone par une oreillette
ouais.
presque invisible. Ben alors, ces êtres-là ont des technologies bien en avance sur les nôtres.
Mm-hmm.
Ils ont une technologie sur le cerveau capable d'agir et de nous faire voir. Et ça fait partie justement, des textes asiatiques, le chamir ou les appareils que les devas ou les asuras avaient dans le Mahabharata
mm-hmm.
ou dans la Bhagavad Gita, tout ça, ce sont de la technologie expliquée avec des termes de l'époque qu'on commence à adapter avec la technologie moderne pour se dire « Ah, ben, il parle des choses que... » Ça devrait être ça, le mot qu'il devrait utiliser. Oui, mais dans le temps,
il n'y a pas une chose.
Alors, on entre bientôt dans un nouveau monde, et ce monde-là va nous mettre sûrement dans l'obligation, un peu comme des enfants d'une famille, où les parents vont maintenant nous dire, ben maintenant, vous allez voler de vos propres ailes, on va arrêter de vous protéger, puis de vous surveiller, puis de vous contrôler.
Mmh.
Comme les ovnis, comme les extraterrestres, comme le gouvernement mondial planétaire fait présentement,
mm-hmm.
en se servant des Men in Black à l'occasion pour remettre sur le droit chemin ceux qui veulent déranger, ceux qui sont des hyperactifs ou des problèmes. Et bon, tu vas trop loin. Tu n'as pas le temps de dire ces choses-là, les autres sont pas prêts à entendre ça. Croyez au Père Noël encore.
Oui. Bon,
alors, je veux présenter les hommes en noir, non pas comme nécessairement que du néfaste, mais plutôt comme des agents de sécurité.
Mmh. On a bien compris qu'ils sont là pour que tout ne soit pas fait dans n'importe quel sens. Alors peut-être sont-ils finalement à la base de ce que l'on appelle la divulgation. Peut-être que petit à petit, c'est via ces hommes en noir, et c'est peut-être eux d'ailleurs qui retardent en disant le terrien n'est pas prêt, quoi qu'il en soit, ça va longtemps faire parler. On va être obligé, Richard, d'arriver au terme de cette discussion, parce qu'il est quasiment minuit ici, heure française.
Alors, Bob, je vais juste apprendre que dans les prochaines rencontres qu'on aura, je communiquerai avec Mathieu, il faudrait qu'il m'écrive parce que j'ai perdu son adresse mail, mais je vais lui envoyer des sujets et mieux que ça, comme on s'est entendu, je vais même vous faire entendre des témoignages ou des choses qui vont être complémentaires avec des spécialistes américains, mais on est capable de comprendre ou de traduire rapidement.
Bien sûr.
Des choses qui sont à la fine pointe que je voudrais faire partager avec votre public que vous avez en France. Et graduellement aussi, j'amènerai des choses exclusives à Bob.
Ah, bah, c'est un vrai bonheur, Richard, en tout cas. C'était une belle rencontre. Et puis surtout, je pense qu'on va très vite se voir. Et puis on va s'appeler pour une diffusion probable au Québec, même en ondes courtes. De toute façon, l'important, c'est qu'on soit. Quand on veut écouter une émission, on l'écoute. En tout cas, mille fois merci.
Par Internet, il pourrait réussir en se branchant sur Internet et vous mettre tout simplement en prolongement d'Internet.
Oui, bien sûr. Mais on est déjà sur. Tous les gens qui nous écoutent à Québec aujourd'hui sont par Internet, mais c'est vrai que bon, de toute façon, on aura l'occasion de se reparler. Puis merci à Gilles Surprenant également hein, sur le site Ésotérisme Expérimental qui a animé par des images cette discussion. Richard, bon après-midi.
Eh oui, merci et bonne nuit de votre côté.
Oui, pas de problème, à très bientôt, ciao.
Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires,
si vous avez dormi dans une maison hantée,
votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur adofm.fr ou la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité.
Ah, des milliers, vous avez été des milliers comme chaque soir à me rejoindre sur Ado afin de m'entendre vous dire toute la vérité sur les phénomènes paranormaux, les ovnis, le complot d'État, le mystère des pyramides, Big Brother, encore les sociétés secrètes, les grands mystères de notre existence. Avant de vous annoncer le programme de demain, petit tour vers l'agenda avec Hélène. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc?
Alors, vendredi à 19h, Pascale Lafargue donnera une conférence sur la réincarnation. Elle aura lieu place de la Libération à Monaco.
Ouais, et puis
Jean-Fabrice donnera une conférence, lui aussi, samedi à 14h. Elle portera sur la transfiguration et elle aura lieu près de la ville de Sarlat.
Magnifique. En tout cas, je vous rappelle que, mesdames et messieurs, l'appli est téléchargeable gratuitement sur l'App Store ou Google Play. Actu, yes. Podcast, vidéo, programme exclu pour ne rien louper de l'émission. Idem si vous allez sur le site www.bob-toutelavérité.fr. Demain, dès 6h, c'est Léo qui sera à ma place pour vous réveiller dans le morning show de la maison. Merci à tous mes invités, à toute mon équipe, Hélène, Bess, Sylvain, Elliot, Mathieu. On rappelle que si vous êtes des noctambules, les réseaux sociaux, alors là, ils restent ouverts.
Et oui, rejoignez le forum et laissez-nous vos propositions de sujets sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité sur Ado et le Twitter. Maudies Bob Vérité.
Bonne nuit à tous, à demain. Et comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars.
Phénomènes paranormaux,
sociétés secrètes, mystères des pyramides, complot d'État,
Big Brother,
témoignages, révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps.